il m'est permis d'interpréter à mon tour le collège, je dirais que dans l'ordre des institutions, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire.
Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti.
Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche.
Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment petit à petit, Amos Gitaï, qui a fait des études d'architecture à la suite de son père, a-t-il approché le cinéma et comment est-il devenu cinéaste ? Quel est son attachement inquiet et critique à l'égard de l'histoire d'Israël et son engagement de citoyen dans un monde qualifié de triste, mais devant lequel il ne faut pas désarmer le regard ni la pensée? Comment filme-t-on le Moyen-Orient? Dans les années 1970-1980, Amos Gitaï a réalisé plusieurs documentaires, dont House, censuré par la télévision israélienne et dont vous découvrirez dans l'heure la bande sonore incroyable. Aujourd'hui, vous allez aborder le monde d'Amos Gitaï d'abord par l'oreille et par des images mentales. Les extraits de ses films sont diffusés dans la vidéo de sa leçon inaugurale et disponibles sur le site du Collège de France. Et à part, son court-métrage The Book of Amos, grand plan séquence filmé en 2012, qui achève sa conférence et dont vous entendrez là encore la très impressionnante bande sonore. Amos Gitaï a tourné Esther, son premier long métrage de fiction, en 1985 et s'est partagé dès lors entre les documentaires, des mises en scène, l'écriture et la réalisation de fiction. Lauréat du prix Roberto Rossellini, du Léopard d'honneur du 61e Festival de Locarno et du prix Robert Bresson de la Mostra de Venise en 2013, il est le premier cinéaste nommé à la chaire annuelle de création artistique du Collège de France. La mémoire est au cœur de son travail. Sa leçon inaugurale joue habilement de son itinéraire personnel et de son rapport à la mémoire. Au magazine Transfuge, en 2017, il confiait, et je le cite, « La mémoire est une faculté très puissante. Vous savez, les meilleurs films que j'ai pu voir, les Pasolini par exemple, ont commencé après la fin de la projection. Notre rôle, en tant que cinéaste, est de laisser une trace dans la mémoire. » Pour Amos Gitaï, il s'agit de trouver un équilibre fragile, ne pas rester neutre, mais ne pas écraser, dit-il, les points de vue antagonistes. Car je préfère avoir un public actif qui se forge sa propre opinion, qui interprète, à un public de consommateurs. Quand la Cinémathèque lui a consacré une exposition prolongée par un bel ouvrage collectif, Amos Gitaï, architecte de la mémoire, en 2014, le cinéaste rappelait, et je le cite, « La caméra est une sorte de fétiche. Ce n'est pas seulement une machine à reproduire, capable de répliquer le mouvement, la couleur, c'est une machine qui a acquis le pouvoir d'un objet cérémoniel, dont la présence même permet à un réalisateur d'entrer dans des lieux auxquels, sans la caméra, il n'aurait pas accès. Je n'aurais jamais pu prendre place à bord de l'avion d'Itzhak Rabin, ni entrer à la Maison Blanche pour voir et tenter de comprendre ce qui m'intéresse, si je n'avais pas eu ce fétiche dans les mains. À une époque où nous sommes bombardés d'images de télévision, qu'il s'agisse d'informations ou de programmes de divertissement, où la technologie et l'industrie de production d'images ne cessent de progresser, il importe de rester résolument conscient de l'acte de représentation, de garder à l'esprit qu'il ne s'agit pas seulement du quoi filmer, mais du comment filmer. Dans le même texte, il rappelle que pour lui, le plan séquence est l'un des moyens cinématographiques les plus subversifs. Il permet, dit-il, de créer un rythme qui oblige les spectateurs à porter un regard différent du regard mécanique auquel les séries télévisées ou les reportages et le cinéma commercial nous ont habitués. Alors comment sa formation d'architecte, dont il s'est affranchi grâce à sa caméra Super 8, a pu inspirer Amos Gitaï? Comment a-t-il compris plus tard que sa caméra le protégeait? Comment le rapport à la mort à laquelle il a échappé peut avoir des effets contradictoires? Comment, au nom d'une vie qui était presque partie à cause de la guerre du Kippour en 1973, Amos Gitaï a-t-il pu considérer que c'était sa mission de dire les choses que l'on pense? Comment rechercher la vérité sans peur, demande encore Amos Gitaï quand il évoque ses années de formation à Berkeley pour ses études d'architecture. C'est à Berkeley, en effet, qu'il a compris qu'il y a quand même une différence entre la connaissance et l'information. Nous gagnons l'amphithéâtre Marguerite de Navarre le 16 octobre 2018 pour la leçon inaugurale d'Amos Gitaï. La caméra est une sorte de fétiche filmée au Moyen-Orient. Et tout de suite, le mot d'accueil d'Alain Prochian, qui était alors l'administrateur du Collège de France.
Cher Amos Gitaï, vous êtes le nouveau titulaire de la chaire de création artistique et allez dans quelques instants prononcer votre leçon inaugurale. Cette chaire, dont vous êtes le 11e titulaire, a accueilli des artistes prestigieux dans de nombreux domaines, dont la sculpture, la littérature ou la musique. Mais vous en êtes le premier cinéaste. Premier cinéaste, mais deuxième architecte, puisqu'elle fut inaugurée en 2005 par Christian de Pourcensac avec une leçon intitulée « Figure du monde, figure du temps ». Non sans rapport avec votre leçon aujourd'hui. Vous avez en effet soutenu un doctorat en architecture à l'université de Berkeley, poursuivant un temps une tradition familiale, puisque votre père, arrivé à Haifa en 1933, était un architecte du Bauhaus. Et puisque nous en sommes aux histoires de famille, je sais que vous aimez beaucoup les familles, et je sais aussi que vous ne me pardonneriez pas de ne pas citer votre mère, Efrasia Gitaï, qui est née en Palestine, et dont la correspondance que vous avez publiée vous-même fut lue au Théâtre de l'Odéon par Jeanne Moreau, en 2010. Lorsque Madame Terrasse Rioux vous a conduit dans mon bureau, c'était pour évoquer la possibilité d'une grande conférence. Mais la profusion de votre œuvre et le nombre de sujets que vous vouliez aborder nous a rapidement orientés vers la possibilité d'une chaire et la mise en route du processus d'élection, qui est un processus complexe, mais qui, pris dans sa globalité, garantit un enseignement de qualité. Je veux souvent insister sur le fait que, même si les médiums que vous utilisez sont multiples, musique, film, danse, exposition, vous avez exposé dans les plus grands musées du monde, vos œuvres semblent plus souvent se développer à partir de l'écriture, à partir du texte. Le lien entre votre activité de cinéaste et votre formation d'architecte s'ira rechercher dans un regard social ou politique, plus que dans un formalisme esthétisant de l'ordre de l'intime. Vous semblez en effet singulièrement attaché au fait que ces deux domaines impliquent une action collective qui catalyse le passage du texte à une forme concrète et implique des interactions entre des locuteurs de diverses origines et de diverses opinions, ce qui n'est pas sans nous rappeler, à travers l'attention portée à la littérature et à la politique, un certain Godard. Depuis 2015, année de sortie du film « Les derniers jours » de Isaac Rabin, votre activité a beaucoup tourné autour de cet assassinat, perpétré le 4 novembre 1995, 2 ans après la signature des accords d'Oslo. Vous l'écrivez vous-même, l'assassinat de Rabin marque un tournant dans l'histoire d'Israël. J'ajouterai qu'il porte ses conséquences, comment l'ignorer, bien au-delà de ce seul pays. Ce premier film s'est prolongé de chronique d'un assassinat annoncé en 2016, puis tout récemment du spectacle Isaac Rabin, chronique d'un assassinat, qui donne pour ainsi dire la parole à travers ses mémoires à Léa Rabin. Ce spectacle de la Philharmonie de Paris, auquel certains ont eu la chance d'assister, mélange chant, Barbara Hendricks s'y est produite, théâtre et littérature, à travers notamment des textes de Shakespeare et aussi le cinéma. Mais nous savons bien, tout le reste est cinéma. En clôture de cette brève présentation, je veux rappeler que vous avez donné l'ensemble des archives Isaac Rabin à la BNF, Bibliothèque nationale de France, soit près de 30 000 documents. Merci pour ce geste. Merci aussi pour avoir exprimé le souhait d'enseigner ici cette année. Alors, cher Amos, le moment est venu. Bienvenue au Collège de France.
Cher Alain Prochian, chère madame et messieurs les professeurs, je crois que je n'ai pas été ému comme celui-là depuis ma bar mitzvah. Alors, si je vais parler d'une façon un peu approximative, il faut m'excuser. J'avais plusieurs choix. Est-ce que je vais parler français, que je parle moyennement, ou est-ce que je vais parler anglais, comme c'est décrit qu'en 1530, François Ier, il a dit qu'il y a 3 chercheurs dans les langues hébreux. Et peut-être je vais parler hébreu. Mais bon, finalement, je vais faire l'effort de parler français avec quelques mélanges d'anglais. La question qui était posée, c'est comment j'ai devenu cinéaste et qu'est-ce que toujours le sens principal de mon inspiration. Le sens principal, c'est un sens citoyen. Même avant architecte ou avant cinéaste, c'est un sens citoyen. Je suis quelqu'un attaché à l'histoire d'Israël, attaché à l'histoire juive, mais je suis inquiète. Alors, j'utilise le médium des spectacles, le cinéma, l'expo, les livres, pour poser des questions. Je pose des questions, alors quand on pose des questions, vous savez très bien, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais c'est la nature des délibérations, de la dialectique des pensées. Et je réponds que c'est dans les bonnes traditions juives, parce qu'il faut poser les questions, si on veut que les choses avancent. Et je demandais, par exemple, d'une façon expressive, que Madame l'ambassadrice d'Israël ne va pas être invitée ici, parce que moi, je n'adhère pas de façon musclée que les gens qui gèrent ce pays gèrent leur affaire avec le reste du monde. Ce n'est pas dit que je suis hostile en Israël, j'aime beaucoup ce pays, je trouve qu'il y a des gens très émouvants, mais je trouve qu'il y a des lignes qu'il faudra traverser. Et comme on est dans une époque assez triste, je trouve qu'il y a plus et plus d'artistes qui font un travail d'accommoder les pouvoirs actuels. Je trouve qu'il y a des lignes qu'il ne faut pas passer. Alors, pour commencer, il faut commencer par la mer. Alors, je vais vous montrer un petit extrait des dernières lettres de ma mère, qui était d'ailleurs publiée chez Gallimard, parce qu'on commence à travailler ensemble sur les moyens dans lesquels on peut transformer une idée, une lettre, un texte, au moyen cinématographique et de spectacle.
Mon cher Amos, mon très très cher, je me souviens de mon enfance, de ma jeunesse, si belle sur les sables dorés de la petite Tel Aviv, de mes rêves d'amour sur ces dunes. Mais à mon âge, on est plus pudique, plus timide qu'à notre jeunesse. Tant de batailles, d'épreuves, d'études par intermittence, et dont je suis resté frustré. Un peu d'université, mais une impression d'entrave et surtout des rêves qui se sont brisés. La brisure qui pèse. De quoi l'avenir sera-t-il fait? Mais pour répondre à ta question, donc cette lettre suit une lettre qu'elle a reçue d'Amos, mais pour répondre à ta question, changer de pays, j'y pense parfois. Mais pour aller où? Il n'y a donc pas d'autre lieu où me fixer, non, je n'en vois pas d'autre. Mais après tout, il y a bien des choses qui aident à vivre en Israël aujourd'hui. Le beau Carmel, le bord de mer, sa promenade magnifique à la tombée du jour, la plage de Dado, des couchers de soleil splendides, et l'université, et il y a le théâtre de Haïfa et Jérusalem, et la musique, et quelques amis, celles qui restent. Nous savons ce qu'est l'amitié. Pour moi, c'est ici que sont enterrés ceux de la génération de la deuxième Alia et mes parents, que je n'oublierai jamais, que j'aimerai toujours. C'est ici que sont enterrés mes amis les plus chers, mon mari, l'architecte, et bien d'autres encore. Je ne fréquente pas les cimetières, non, ossements secs et creux. Non. Mais c'est ici que les souvenirs se sont fixés. C'est difficile de les arracher. Seuls quelques échappés à l'étranger et retour. Pour moi, il n'y a sans doute pas d'autre lieu. Mais l'inquiétude me ronge. Qu'adviendra-t-il de vous, les jeunes? La chair de notre chair qui est restée, qui vivait, le rêve déçu. Surmonterez-vous les ténèbres qui nous enveloppent. Porte-toi bien. Maman.
Alors, chaque homme est né chez une femme. Et l'histoire de mes parents a vraiment été une source d'inspiration. Et ma mère, qui était née qu'en Sabra, qui était née sur les sables de Tel Aviv, exactement dans la même année que Tel Aviv était créée, en 1909, qui plus tard a voyagé à Vienne, en 1929, pour raconter Freud. C'est des générations qui ne perdent rien. Et mon père, un juif de diaspora, né à Silésie, architecte de Bauhaus, élève de Mies van der Rohe, de Kandinsky. Goebbels, il a fermé le Bauhaus, il était battu. Et d'ailleurs, entre parenthèses, ce n'est pas un hasard que Goebbels, il a fermé le Bauhaus comme la première Hochschule, c'est-à-dire comment la forme présente une menace idéologique, la forme minimaliste, transparente, simple, sans kitsch, sans schper avec l'architecture qui diminuait l'homme en tout petite proportion. Pourquoi les nazis ont été obligés d'écraser le Bauhaus avant même l'école marxiste, l'école idéologique. Alors lui, il est arrivé en Israël, et moi, je suis le résultat de cette coproduction. Parce que ma fille, elle m'a dit ce matin qu'il faut que j'utilise des questions rhétoriques, j'ai en train d'écouter ma fille aussi, comment je suis devenu cinéaste. Alors, il y a des matières brutes qui arrivent de la famille. Moi, j'ai grandi sur le Mont Carmel. Le cinéma n'était pas considéré comme un médium important. C'est plutôt la musique classique, plutôt l'export et l'architecture surtout. Et petit par petit, j'ai commencé à approcher au cinéma. Et j'ai écouté aussi une autre lettre de ma mère, et après on va quitter. Je vous raconte autre chose que l'histoire familiale. Alors, Laurent, si tu peux passer les lettres qu'Efratia écrit en 1931 de Berlin à son père. Comme ça, je partage avec vous comment fait le travail cinématographique d'utiliser des éléments biographiques en adaptant au cinéma.
Le 22 septembre 1931. Mon cher petit papa, c'est avec le cœur lourd que je t'écris cette lettre. Je ne sais pas vraiment ce qui m'arrive ces derniers temps. Je suis si pessimiste. Je peux même me dire que je me sens brisée et épuisée. Papa, je veux t'écrire comme à un ami. J'espère que tu me comprendras. Si l'on considère la première moitié de cette dernière année, elle s'est bien passée. Il est vrai que j'ai beaucoup étudié, j'ai pris part à des excursions, j'ai voyagé, j'ai rencontré des gens. J'ai une bande d'amis plein d'énergie, de force et de confiance en eux. Mais la situation du monde, nous vivons une période épouvantable, sans exagérer. Crise, famine de millions de gens dans le monde. Les ténèbres, entre guillemets, règnent. Les corbeaux croassent, l'homme est mauvais. Il est le reflet de l'époque dans laquelle nous vivons. Je ne suis pas la seule à le penser. Mes amis militants m'envoient des lettres sombres. La peur ne se ressent pas seulement à la lecture des lettres, mais aussi à celle des journaux qui confirment que la paix ne règne pas. En Allemagne, l'atmosphère est explosive. Personne ne sait vraiment ce que demain nous réserve, une révolution, fasciste ou communiste, 6 millions de chômeurs, l'hiver est glacial, la panique boursière, je ne t'en parle même pas. Même les tenants les plus optimistes de l'économie bourgeoise ont déchanté. La crise n'a pas encore atteint son point culminant. Je viens de lire ta lettre, papa, celle qui concerne le travail, je l'ai lue avec attention. J'ai pris conscience, moi aussi, que chacun devait avoir un travail, même si à une époque aussi critique, avoir une profession et un diplôme ne garantit à personne de ne pas aller au diable. Je sais très bien que le fait d'avoir de quoi manger, de travailler en étant autonome et de gagner sa vie est le fondement de toute existence. Pour y parvenir, il faut de grandes forces mentales, mais je crois en les miennes et en mes capacités pour me construire une belle vie.
Comment on devient cinéaste et comment on filme le Moyen-Orient et le rapport des caméras? Le prochain état est inscrit dans le Technion, dans l'école d'architecture à Haïfa. Mon père est déjà mort. J'ai dit que j'ai envie d'apprendre son métier, de dialoguer avec lui, avec un homme mort. Et dans mon école d'architecture, je trouvais plus et plus que l'architecture était un exercice un peu formel. Alors, j'ai commencé à faire des courts-métrages. À partir de 1972, j'ai reçu pour mon anniversaire un petit caméra Super 8. Et mon grande réussite, que j'ai déposé un court-métrage et d'animation primitive à la place de faire l'examen de fin d'année au Technion. Et je fais des films abstraits, des visages, des textures, des séries de films comme ça qui me laissent un peu voir un rapport plus intime à cette matière, mais sans aucune pression. J'ai fini mon service militaire que j'ai fait entre 68 et 71. J'ai inscrit tout de suite au Technion. Mais deux ans plus tard, en 1973, il y a la guerre de Kippour. Moi, comme les gens de ma génération, je suis amené à la guerre. Parce qu'il faut dire que pour être cinéaste, je pense qu'il faut des qualités contradictoires. À la fois, on veut adhérer à ce projet collectif qui s'appelle Israël. En même temps, il faut prendre distance. Et je crois que cette expérience de prendre distance arrive d'un âge plus tôt, parce que j'étais envoyé d'un kibbutz comme j'avais 10 ans, parce que mon père il est parti au Japon, ma mère à Londres. Et je crois, là, dans le kibbutz, un expériment extrêmement noble, je suis confronté en face d'une société très, très soudée, et je suis étranger. Et je suis confronté avec l'hostilité des sociétés très, très soudées vis-à-vis de l'étranger, due mon sympathie tardive pour les migrants, pour les gens déplacés, pour les gens persécutés. Je ne peux pas supporter un groupe qui sont en rapport consensuel vis-à-vis l'autre. La phase actuelle de la politique israélienne, moi je ne peux pas supporter qu'on autorise des tirs des snipers sur les manifestants pas armés à Gaza. Pour moi, ce n'est pas dans le code acceptable. Alors, comme j'ai promis que je ne vais pas ennuyer avec mon histoire, alors je vais montrer aussi un autre extrait. Et plus tard, alors la guerre de Kippour, elle est en 1973, en octobre 1973. Moi, je me trouve dans un hélicoptère de sauvetage. Mon copilote, qui est grosso modo dans les distances entre moi et les premières lignes des chers professeurs des Collèges de France, était tué par un missile, décapité. Le deuxième pilote, heureusement, il a continué à voler. Et grâce à ce garçon, je suis très heureux d'être ce soir au Collège de France. Et le rapport à la mort, je crois qu'il peut avoir des effets contradictoires. Parce qu'il y avait des gens autour de moi dans cet hélicoptère qui étaient complètement écrasés par la guerre. Mais si on analyse bien, il peut nous donner la force de dire les choses qu'on pense, parce qu'on est déjà été presque pas là. Alors pourquoi pas dire les choses qu'on pense, même si ça amène des hostilités des fois. Et je considère à partir de ce moment-là que c'est ma mission de dire les choses que je pense pour ce pays que j'ai presque est parti à cause de la guerre de Kippour. La guerre de Kippour aussi, elle amène un autre élément, c'est-à-dire que comme j'ai amené mon caméra Super 8 que je parlais tout à l'heure avec moi, et je comprends que les caméras, ça c'est de façon rétroactive, et m'a protégé. Le fait que j'ai filmé pendant les missions de sauvetage a créé une sorte de distance utile entre moi et l'événement que j'ai en train de partager. C'est-à-dire, je suis en train de faire un travail de la guerre, je vois les gens qui vont mourir, qui vont mourir dans quelques secondes, je vois quelqu'un qui, encore vivant, il rentre dans l'hélicoptère et dès que je regarde, il n'est plus là. Et moi, je filme. Je filme des textures, des visages, pas encore des films narratifs, mais le fonctionnement des caméras comme une machine, comme un instrument de distanciation, je peux la comprendre aujourd'hui. C'est-à-dire le fait d'être à la fois à l'intérieur d'un événement très dramatique et des nécessités, des besoins de documenter cet événement lui-même, a construit une sorte de distance qui facilitait la façon de continuer à survivre, pas physiquement dans ce sens, mais emotionally, intellectually, etc. Et ça a pris pas mal de temps après la guerre. La guerre était en 1973, et le film Kippour qui était présenté à Cannes dans l'année 2000, alors on peut dire que 27 ans d'écriture pour écrire un scénario, c'est quand même pas mal. Parce qu'au début, tout de suite après la guerre, j'étais même pas envie de parler de cet événement. Et même mes amis très proches, ils n'étaient pas au courant que j'avais cet incident. Et seulement beaucoup plus tard, j'ai décidé de filmer. Et on va voir un extrait de ce film Kippour. Thank you. résonance avec le jour d'aujourd'hui. La guerre de Kippour, c'est 73. 6 ans après la guerre des six jours, en 1967, une grande époque est arrivée, une grande époque d'euphorie de la classe politique israélienne, qu'il croit qu'Israël est plus fort, qu'il n'a pas besoin de faire des concessions politiques. Et la résonance avec le jour d'aujourd'hui, il est alarmant. C'est-à-dire, je me souviens de Dayan, Moshe Dayan, le célèbre Moshe Dayan, qui a un très bel graphisme, qu'il dit qu'on n'a pas besoin de faire un accord avec l'Égypte, que c'est mieux de garder Sharm el-Sheikh sans faire la paix, etc. Il refuse toutes les propositions de concessions politiques. Le résultat, presque 3000 morts, des dizaines de milliers de blessés. Et cette guerre a changé complètement les perceptions des Israéliens d'eux-mêmes. Et aussi, elle amène le premier changement politique à la fin de cette époque, en 1977. Et les travaillistes perdent le pouvoir et c'est la droite qui va prendre le pouvoir. Moi, je vous raconte tout ça, peut-être que c'est des choses assez connues, parce que, comme je dis au départ, que je suis d'abord citoyen, alors je cherche chaque fois d'être inspiré, dérangé, construit à partir d'événements de cette époque, d'œuvres cinématographiques. Je trouve qu'Israël, c'est un projet fort, émouvant, qui mérite de voir un cinéma fort, mais qui est le cinéma qui engage avec le réel. Alors, en 1973, et après je vais aller plus vite, je ne vais pas vous fatiguer avec mon histoire biographique, mais quand même, je réponds à la question de ma fille, comment j'ai devenu cinéaste. Ah, Keren. Alors, ma mère, elle avait la bonne idée de m'exporter à Berkeley, parce qu'elle a dit qu'elle n'a pas envie que je monte sur un autre hélico, et je commence mes études de master et PhD à Berkeley. C'est une époque entre 1973 et 1980, qui est mon premier film House, qu'on va voir un extrait tout à l'heure, dans lequel je suis étudiant à Berkeley. Et je dois dire que cette rencontre avec le monde intellectuel, de voir encore les derniers exemplaires de Frankfurt School, Leventhal, avec la pensée de Marcuse, de Adorno, de, bien sûr, Walter Benjamin, avec la question de reproduction d'images, toutes les théories de masse culture m'a inspiré beaucoup. Alors, je suis dans cette époque, comment j'ai devenu cinéaste, dans cette époque de 7 ans, que j'ai un tampon plutôt légitime, j'ai fait un travail légitime, un doctorat d'architecture, c'est pas mal. Et en même temps, je commence à charger intellectuellement des pensées marxistes et néo-marxistes sur l'économie du tiers-monde, les notions de Karl Marx sur les fétiches, les notions de Karl Marx sur les distinctions entre use value et exchange value. Je ne sais pas comment on dit en français. Hein? Valeur d'échange, valeur d'usage, voilà. C'est-à-dire, si on fait des banalisations de cette idée, c'est-à-dire si j'ai cet objet-là qui a un statut africain, dans le contexte africain, il peut créer la fertilité des femmes, il peut bouger le ciel. Mais aujourd'hui, il a seulement un petit étiquette à rue Faubourg-Saint-Honoré, 10 000 dollars. Alors, il n'a pas de fonction dans son cité. Et comment le cinéma, d'ailleurs, qui par lui-même, c'est un objet reproduit, parce que le cinéma reproduit l'image, la photo, le mouvement, les chorégraphies, le son, c'est une sorte de reproduction, et pas seulement des tableaux, c'est pas comme John Berger décrit très bien dans Ways of Seeing. Alors, c'est l'époque de Berkeley aussi, je participe dans les conférences de Paul Feyerabend, un élève de Karl Popper, Against Method, c'est-à-dire une pensée anarchiste sur les recherches scientifiques, et surtout son texte brillant sur Galilée, c'est-à-dire comment il faut chercher les vérités scientifiques, que j'imagine que vous tous, vous êtes dans cette démarche, et comment on cherche la vérité sans avoir peur, comme Galilée, de confirmer que Copernicus il avait raison, même si l'Église ne l'aime pas. Alors, Paul Feyerabend, c'était fascinant, la série de conférences, aussi sur la pensée juive, et j'ai lu Gershom Scholem, les dialogues avec Hannah Arendt. C'est une belle époque de 7 ans que je suis chargé intellectuellement, qui, de toute façon, va être très utile et plus tard, pour situer certaines idées dans un contexte, de ne pas être ignorant, et de comprendre qu'il y a quand même une distinction entre le knowledge et l'information. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est bombardé par des informations, mais le knowledge, qui est une procédure, voilà, le téléphone, voilà, mais le knowledge, qui est un processus pénible, parce qu'on ne comprend pas toujours, mais il demande une sorte d'engagement. Alors, Berkeley, 7 ans de Berkeley, servit cet aspect-là. J'avais une belle perspective d'être assistant professor, associate professor, mais comme j'ai appris les mauvaises habitudes de prendre des risques, je reviens à Israël. En Israël, je fais un film qui s'appelle House, qui c'est peut-être la troisième réponse à Keren. Et pourquoi j'ai devenu cinéaste? Parce que le film est censuré par la télévision israélienne. Et tout à l'heure, je vais vous montrer un petit extrait parce que ça va être un sujet d'un des conférences. Alors, comme le film est censuré, et je vous rappelle les choses que je vous avais dit après la guerre de Kippour, j'ai deux options. Ou dire, bon, c'est pas grave, de toute façon, je suis architecte, et un petit film que j'ai fait est censuré, ou d'aller faire la bataille pour défendre le film. La bataille est pénible. Le film, il n'est pas hystérique ni démagogique, il n'a même pas un mot de voix off. Simplement, il dit les choses très simples, que les Palestiniens, ils sont aussi en attachement aux mêmes terres que les Israéliens. Et si Israël, c'est moi que je dis, c'est même pas le film, veut un jour qu'il y a la paix, il faut qu'il intègre cette information. Il faut qu'il commence à dialoguer avec les souffrances palestiniennes. Il faut qu'il cherche des solutions. Et c'est bien gentil de dire que les solutions, c'est des rapports de force, mais les rapports de force venant des grandes expériences juives, des souffrances et des persécutions, ce n'est pas la solution. Et même si Israël est fort aujourd'hui, on n'est pas sûr qu'il va être toujours fort. Ça peut arriver d'un moment qu'il va être faible. Et qu'est-ce qui va passer là, dans cette région qui n'est pas facile? Alors, il y a nécessité de parler des Palestiniens et de nécessité de trouver un modus vivendi, sans dire qu'il y a de l'angélisme. Les deux côtés ne sont pas angéliques. Mais quand même, il faut faire cet effort. Le travail plus récent sur Rabin, que c'est le seul homme politique qui a vraiment cherché une solution. Ce n'est pas sûr qu'il va arriver, mais la recherche lui-même mérite quelque chose. Alors je vous montre, parce que je ne vais pas ce soir vous dévoiler tous les 9 conférences, alors je vous montre un tout petit extrait pour faire appel à cette film qui s'appelle House. Et après, je vais vous parler des stratégies de tournage et des questions qui étaient posées comme titre de ce soir. Alors là, on va voir les tailleurs de pierre dans les montagnes de Hebron qui sont interdits d'utiliser les explosifs pour des raisons de sécurité.
Le Collège de France et France Culture vous présente le cinéaste Amos Gitaï, sa leçon inaugurale. La caméra est une sorte de fétiche filmée au Moyen-Orient.
Alors, avec House, qui est un film que j'ai fait il y a 40 ans, j'ai commencé à travailler en 1979, dès que j'ai fini mes études à Berkeley. Et je commençais à développer une idée, et là on touche le sujet qui était affiché comme la thématique de mon speech ce soir, et les stratégies ou les fétiches des caméras ou les façons de filmer le Moyen-Orient. C'est-à-dire, j'ai compris que comme c'est un conflit assez complexe, il ne faut pas faire un seul film. Alors, mon filmographie est organisée souvent par des trilogies. J'ai fait des trilogies de la ville avec Kadosh, Devarim, Yom Yom. J'ai fait sur l'événement historique avec Kippour, Kedma et Eden. J'ai fait des séries sur les frontières avec Free Zone, Promised Land, Désengagement. J'ai fait des séries de trilogies avec l'idée d'ailleurs architecturale qu'il faut plusieurs regards sur les mêmes thématiques. Peut-être c'est le moment de remercier tous les gens qui travaillent avec moi parce que le cinéma, comme l'architecture, c'est pas strictement le cinéaste. Moi, je suis assis là, mais là, il y a Isabelle Ingold qui a monté beaucoup de mes films. Il y a Coraline Champetier qui a tourné Promised Land et plus tard, tu comprendras. Il y a Jérôme Clément qui a soutenu beaucoup de mes films. Il y a ma famille, il y a Marie-Josée qui écrit avec moi pas mal de scénarios. Alors, il y a Laurent, qui est toujours 30 ans qu'on travaille ensemble, c'est-à-dire que c'est une équipe. C'est une équipe. Et l'équipe, il n'est pas strictement exécutant, c'est des gens autonomes, avec leurs paroles, avec leurs idées, qui contribuent. Et ils ont une part de mon travail. Alors, pour revenir aux stratégies, comment filmer le Moyen-Orient, c'est-à-dire qu'il faut multi-regards, parce que c'est un conflit pas si simple, il y a beaucoup de couches. Moi, je dis souvent que les films de fiction que j'ai fait sont des projets d'architecture, parce qu'on a une idée, et on commence à traduire l'idée vers une forme cinématographique. Et les projets que j'ai fait, qui sont documentaires, c'est comme des sites archéologiques, on creuse. Mais quand on fait des films documentaires, il faut être délicat, parce que si on est trop brutal à la Michael Moore, on casse l'objet lui-même, on devient démagogique. Alors il faut qu'on conserve les paramètres principaux d'objet et les contradictions de cet objet, il va nous raconter quelque chose. Et il faut aussi participer avec vous, avec le public, comme interprète, pas comme consommateur. C'est parce que les meilleurs films que moi j'ai vus, qui ne sont pas seulement les miens, commençaient comme la projection est finie. C'est-à-dire on promène. On va recomposer des images et des impressions, et c'est ça le bon travail. Parce que le travail qu'on fait est le travail sur la mémoire. Et dans cette parenthèse, la culture, elle n'a pas, à mon avis, un impact direct sur le réel. Elle n'a pas. Les cinéastes, les écrivains, les peintres, ils ne peuvent pas remplacer l'homme politique, on ne veut pas remplacer l'homme politique. Il ne faut pas mettre l'homme politique au chômage. Il faut qu'il travaille un peu mieux, parce que le stade de la planète n'est pas génial. Mais on travaille sur les mémoires. Et la mémoire, c'est quand même quelque chose de fort. Regardons Picasso avec Guernica dans l'année 30. C'est pas seulement la belle peinture, c'est un geste civil. C'est quelqu'un qui est choqué par le bombardement de Luftwaffe, des villages basques. Il fait une peinture. Aujourd'hui, on regarde la peinture et dit, bon, elle est très belle. Mais il ne faut pas oublier que Picasso a interdit le voyage de Guernica en Espagne tout au long de la vie de Franco. C'est-à-dire l'artiste, ils ont des moyens de sanction, qui est pas mal. Et le résultat, là, il y a quelques semaines, que par le hasard politique, il y a un premier ministre de gauche élu en Espagne. Il veut virer Franco de son mausoléum kitsch et lui mettre quelque part ailleurs. C'est tout ça, c'est le résultat de pas une action directe. C'est l'artiste et les mémoires d'autres générations, des gens qui luttaient contre le fascisme espagnol. Voilà le résultat. Alors, la mémoire, il n'est pas si innocent. Et moi, que j'ai fait pas mal de films qui touchent les mémoires, c'est ça leur destin. Je sais que je n'ai pas le pouvoir, malheureusement, on peut dire, de virer Netanyahu de sa poste. Il est trop malin, c'est un manipulateur de bon niveau. Et moi, je n'ai pas la force de le virer de où il est. Mais il ne faut pas céder la lutte pour la mémoire. La mémoire, il a quelque chose. Subversif, souterrain, il continue à travailler dans la tête des gens. Et un jour, de toute façon, toute la guerre finit à un moment donné. Et ce n'est même pas à Européens de donner les leçons au Moyen-Orient, parce que l'Europe, il n'y a même pas 100 ans, elle a fait le pire des guerres de la planète. Et quand même, aujourd'hui, on peut prendre les voitures et traverser les frontières sans douane. C'est-à-dire, cet groupe d'Européens très intelligents, ils font des guerres féroces, mais ils sont arrivés à la conclusion qu'on peut régler les disputes et les désaccords d'une autre façon. Alors, je crois qu'un jour, le Moyen-Orient, il va arriver. La question est quand, et combien de victimes, et combien de pertes de ressources. Alors, la question, qu'est-ce que la stratégie des cinéastes vis-à-vis cette masse, cette matière brute, cette masse d'informations, masse d'histoire, des séries de couches. Et une façon, c'est de faire des trilogies d'angles différents. L'autre côté, c'est de développer les choses qu'on va voir à la fin de mon discours ce soir, que c'est le plan séquence. Le plan séquence, c'est de dire c'est un plan non interrompu qui refuse les propositions, même si c'était Eisenstein qui nous a donné des leçons sur le montage, ça refuse des propositions de condenser le temps, mais qu'il veut garder le plan séquence un bloc temporel et spatial. C'est-à-dire, on va vous montrer, sans couper, un plan qui va durer les durées qu'on a besoin, en continuité. Et dans plusieurs films que j'ai fait, vous avez vu le plan de Kippour, mais Kadosh, comme j'ai travaillé sur la prière juive Kadosh, il y avait tout ce plan séquence d'ouverture dans lequel, si on filme un rituel religieux, le rituel religieux nouveau, il y a une chorégraphie, c'est-à-dire on bouge dans toutes les religions, bouddhistes, chrétiens, juifs, musulmans, on bouge des objets avec une certaine procédure de chorégraphie. Et il ne faut pas compresser le bloc temporel. Il faut que ce bloc temporel qui explique les chorégraphies, il reste intact. Et moi j'aime bien la façon que les Français appellent d'ailleurs, vous savez, en anglais ou américain, on dit « cast » pour l'acteur. En français, on dit « interpréter par ». Et je trouve que c'est la bonne façon de parler. C'est-à-dire que les comédiens, ils sont des interprètes. Ils ne sont pas des exécutants. Alors, par exemple, pour faire Kadosh, j'ai appris tous les groupes d'actrices et d'acteurs. Il y a Ella Bekassis, Meital Barda, l'homme aussi. Chaque samedi soir, pour voir les prières des grands rabbins séfarades, Ovadia Yosef à Jérusalem, pour qu'ils voient les procédures. Comme j'ai fait Kippour, on a couru sur la plage, parce que c'est un film très physique, alors il faut que le corps, il faut des body language. Et chaque film, il faut développer une autre méthodologie, une autre stratégie pour rendre cette expérience, pour lui donner un sens réel et pas accepter les dogmes du cinéma. Je suis plutôt inspiré par ma formation d'architecte et je vois des fois mal comme le cinéma, il devient trop predictable. Franchement, je vois moins et moins de choses que je trouve étonnantes. Je vois plus un Pasolini, plus Godard, sauf Godard lui-même, et des autres, c'est-à-dire qui osent de faire un challenge à ce discours. Et alors, avant de terminer, alors, je vais vous montrer un court-métrage entier qui s'appelle « The Book of Amos ». Et là, je vais parler du travail qu'on a fait avec Jeanne Moreau, mais aussi avec Samuel Fuller et Hannah Shigula sur le texte de Flavius Joseph sur la guerre des Juifs. Et c'est un autre sujet qui m'intéresse beaucoup parce qu'il faut que l'histoire nous raconte des choses qui sont valables pour aujourd'hui. L'histoire n'est pas strictement, et même les biographies de mes parents, ce n'est pas strictement des rapports sentimentaux. J'aime beaucoup mes deux parents, mais je trouve que l'architecture de Bauhaus nous donne une idée pour l'avenir, pour ne pas aller dans strictement l'architecture d'image, pour rester sobre. Et aussi, le Bauhaus n'était pas strictement une école formelle, il était aussi une école d'engagement politique. Il y avait Miss Van der Rohe, il y avait aussi Hannes Meyer, il y avait la question de housing. Dans l'année 1920, les plus grands architectes de la planète, ils ont fait un concours, comment on peut dessiner un appartement de 70 mètres carrés. Pas seulement des palais, des aéroports, des musées. C'est-à-dire, on a besoin de cerveaux, d'architectes doués, talentueux, pour finir avec l'aspect cauchemardeux des banlieues des grandes villes mondiales. Et je trouve que d'ailleurs, c'est une grande tristesse que même des gouvernements de gauche, ils ne comprennent pas que l'architecture, c'est un outil énorme pour modifier le réel, pour éviter les ghettoisations de certains secteurs de la société et pour utiliser l'architecture. Mais ça, j'ai dit à mon chapeau d'architecte et je n'étais pas invité par vous pour parler d'architecture, non? Bon, un autre jour. Alors, je trouve que quand même l'architecture, et je parle de cette expérience de mon père qui fuit Dessau, qui était sauvé par les gens autour de Paul Klee à Bâle, qui était un immigrant illégal à Bâle, et qui, comme tous ses copains, ils sont partis à New York pour rejoindre Miss Van der Rohe. Et lui, il a décidé qu'il a envie de dessiner des kibbutz, des salles à manger. Et le premier projet de Yad Vashem, d'un building d'université hébraïque, c'est-à-dire l'engagement pour des choses qui sont d'aspect social important. Je trouve que l'architecture, comme je parle de mon père, je parle de cette idée, pas strictement avec mon tendresse pour cet homme qui était mon père, mais aussi comme une leçon qui peut nous servir. Comme je parle de ma mère, que vous avez partagé son talent, et j'étais très ému, presque comme un bar mitzvah, mais pas complètement. Comme Jeanne Moreau, elle m'a fait le grand honneur pour mon anniversaire à la théâtre d'Odéon, elle a lu toutes les lettres de ma mère, qui étaient publiées chez Gallimard. Alors, c'est des gens qui sont été attachés aux sept projets d'origine d'Israël. Et je trouve que dans les journées, des jours d'aujourd'hui, qui est une journée plutôt sombre, que le régime actuel est en train de détruire cette couche israélienne, il faut aussi parler de cette point de départ, qui n'est pas idem du stade où Israël se trouve aujourd'hui, qu'il croit strictement dans les rapports de force, qu'il croit dans les manipulations politiques, qu'il n'y a aucun aspect humain, et aucune ambition société. Et Startup Nation, c'est très bien, mais ce n'est pas tous. Alors, là, je reviens vers le dernier extrait que je vais vous montrer ce soir. Et c'est une histoire assez drôle. J'étais invité par un groupe de cinéastes, il y avait Ken Loach, Sean Penn et des autres, de faire un film collectif. Ils m'ont appelé de Los Angeles, ils m'ont dit, on va faire un film qui s'appelle en anglais « Words » en pluriel, « with gods » en pluriel. Et on a envie que tu vas être avec nous. Alors je lui ai dit, écoute, moi je ne suis pas très religieux, j'arrive de famille assez laïque. Non, non, Amos, on a envie que tu fasses un film. Et je lui ai dit, écoute, moi je vais faire hommage à Amos, pas moi, d'origine. Et alors les gens de Los Angeles m'ont dit, mais c'est à qui les droits d'auteur? Alors je lui ai dit, il faut chercher un berger il y a 3000 ans dans les montagnes de Hebron, et il faut négocier avec lui, c'est pas moi. Mais effectivement, les gens comme mon grand-père maternel, ils se sont donné le nom Amos, qui, comme vous savez, c'est le prophète féroce, de gauche, qui parle d'injustice sociale, mais éclate tout le Moyen-Orient. Et d'ailleurs, son texte, comme plusieurs des textes bibliques, ils sont magnifiques. Alors, je remercie beaucoup mon grand-père de m'avoir donné ce nom. Et aussi, c'est un rappel que le texte biblique, même sans être religieux, et je suis d'accord avec Pausolini qu'il faut re-challenge des textes bibliques, il ne faut pas laisser strictement aux interprétations réactionnaires, parce que ce texte est de grandes leçons d'éthique. Il ne faut pas oublier que la Bible, il a écrit, il a enregistré le rapport entre le prophète Nathan et le roi David. Le roi David, le roi le plus célèbre d'histoire juive, et le prophète Nathan, il vient, il dit à David qu'il était un homme immoral, parce que comme il a désiré Bethsabée, il a envoyé Uria, son mari, d'être tué à la guerre, parce qu'il a désiré Bethsabée. Et la grandeur des textes bibliques, il a mis ça on the record. C'est-à-dire le rédacteur en chef de Bible, lui ou elle, qui probablement a été payé par la maison de David, il n'a pas éliminé ce texte. Et ce texte a une instruction pour l'avenir. Il dit il faut critiquer le pouvoir. Les ministres de la culture israéliens croient que la culture, c'est des relations publiques. Non. La culture, c'est poser des questions valables. Et déjà, dans ce sens-là, je suis dans la bonne ligne de la tradition juive dans laquelle il faut poser les questions au pouvoir. Et c'est admiratif que le texte biblique n'a jamais éliminé le texte le plus féroce qui parle d'injustice sociale, etc. Bon, tout ça c'est très beau, alors moi je dois faire un film. J'ai pris le texte d'Amos et j'ai partagé entre sept protagonistes, trois femmes, et il y a Ella Bekassis qui a joué avec moi, Kadosh et des autres, et quatre hommes, un hébreu et un arabe aussi. Parce qu'Amos commence par éclater tous les Moyen-Orient. Il parle mal de Damas, il parle de Gaza, il parle d'Israël, il parle de colonies, etc. Et il éclate tous les Moyen-Orient. C'est un plan séquence. C'est un seul plan qui dure 10 minutes, dans lequel il y a le texte du prophète Amos, qui tous les textes, ce n'est pas moi que j'écris, c'est strictement des citations de textes bibliques, faits par des actrices et des acteurs, tourné sur un rail. Alors le montage, c'est un montage interne, ce n'est pas un montage fait par une salle de montage. c'est-à-dire les chorégraphies et les compositions de ces plans qu'on va voir maintenant, elle fait à l'intérieur de ces plans. Alors on va regarder The Book of Amos.
אשר חזה על ישראל בימי עוזיה, מלך יהודה, ובימי ירבעם בן יואש, מלך ישראל, שנתיים לפני הרעש. ויאמר, אדוני מציון ישאג, ומירושלים ייתן קולו. ואבלו נאות הרועים, ויבש ראש הכרמל.
كذا قال الرب من أجل ذنوب دمشق الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه لأنهم داسوا جلعادة بنوارج من حديد فأرسلوا النار على قصور بن هددة وأكسر مغلاق دمشق وأقطع الساكنة من بقعة آونة وماسك القضيب من بيت عدن ويصب شعب أرام إلى قيرة قال الرب هكذا قال الرب من أجل ذنوب غزة الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه لأنهم سبوا سبيا كاملا لكي يسلموه إلى قيرة إلى أدومة وأقطع الساكنة من أجدودة وماسك القضيب من أشقلونة وأرد يدي على قيرة
أخين أمسكين بيت أي دوم كي أترعاهي ديرشوتو مال رع لما أنت خيو ויהי כן אדוני אלוהי צבאות איתכם כאשר אמרתם שנאו רע ואהבו טוב והציגו בשער
ימים
באים נאום אדוני אלוהים ויש לך רעב לא רעב ללחם ולא צמא
הנני שם אנך בקרב עם ישראל לא אוסיף עבור לו ונשם ובמות ישחק, ומקדשי ישראל יחרבו!
מרסי בוקו, מרסי דה סט אינביטציון, ג'י סוי טרה אמי, מרסי.
C'était les cours du Collège de France où venait d'écouter le cinéaste Amos Gitaï sa leçon inaugurale « La caméra est une sorte de fétiche » filmée au Moyen-Orient. Sous ce même titre, cette leçon inaugurale a été publiée chez Fayard en avril 2019. Je vous rappelle l'ouvrage collectif Amos Gitaï, architecte de la mémoire, publié chez Gallimard avec la Cinémathèque française en 2014. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez toutes les informations autour de cette diffusion, la vidéo, ainsi que l'ensemble des cours. Réalisation, Laure-Hélène Planchet. Présentation et coordination, Meryl Moneghetti. À partir de demain, je vous propose une sélection de cours donnés par Amos Gitaï dans le cadre de sa série « Traverser les frontières ». Nous le retrouverons en compagnie de l'historien archéologue Alain Schnapp et il sera question des mythologies, des mémoires collectives, mais aussi des ruines, celles de l'Antiquité et celles d'aujourd'hui. Dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Je vous souhaite une agréable journée à l'écoute de France Culture.